Météo Marine, Ariel Kassim.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio France Internationale. On est ensemble jusqu'à 14h pour la mer, bien entendu. Un rendez-vous quotidien pour tout d'abord la météo marine, comme chaque jour. Et ensuite, eh bien, nous parlons de la Polynésie. Nous parlons très précisément d'un livre, d'un ouvrage qui est le premier de 3 tomes qui paraît aux éditions Buchet-Chastel avec son auteur qui est avec nous aujourd'hui, Jean-Pierre Bonnefoy. Cet ouvrage s'appelle Polynésia, les mystères du temps. Il y a 2 autres derrière. Bonjour Jean-Pierre Bonnefoy.
Bonjour Ariel.
Merci d'être à Paris aujourd'hui, vous qui avez la chance de vivre en Polynésie. On en reparle dans quelques instants, ça sera après la météo marine que voici, avec aujourd'hui à la technique Wissam El-Kayer et à la réalisation Mathias Gauchani. Alors cette météo marine pour l'Atlantique, ce n'est pas hélas pour l'océan Pacifique que là vous habitez. Alors pour ceux qui sont en mer, voici cette météo pour ce mercredi 14 avril. Restez avec nous, c'est sur RFI.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Le quotidien de la mer, Ariel Kassim.
Avec nous pour parler de son livre et même des 3 livres puisqu'il s'agit d'une trilogie. Le premier paru, le deuxième suivra très bientôt et le troisième il va nous le dire quand. Nous avons avec nous Jean-Pierre Bonnefoy. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Ariel.
Jean-Pierre, vous avez fait cette route longue, comme dirait Bernard Moitessier, qui a très bien connu la Polynésie puisque vous venez de Tahiti, vous venez de cette île magique qui se trouve de l'autre côté.
Elle reste magique. Oui, absolument.
C'est
utopie insulaire existe toujours. Cette image extraordinaire qu'on a de la Polynésie, des Polynésiens qui sont des gens charmants, toujours en train de chanter, toujours avec leurs instruments. Et aussi, c'est le paysage merveilleux des lagons où il n'y a pas beaucoup de ports, il y en a même très peu, mais finalement, c'est pas grave parce qu'on peut mettre l'encre pas partout. Dans peu d'eau parfois. Et même, il y a quelque chose d'extraordinaire pour le marin. J'ai jamais rencontré ça, moi, en Bretagne Sud ou même en Espagne. On est à l'avant du bateau, on voit l'encre.
Oui.
On voit la chaîne et au bout, on voit l'encre, même quand il y a 3 ou 4 mètres d'eau. C'est fabuleux. La transparence de l'eau, les habitants des coraux, les poissons papillons sont toujours là. Oui. Et puis, de temps en temps, il y a une pirogue qui passe, même comme à Taha, avec Norbert, qu'on connaît bien, qui arrive avec sa petite guitare et puis sa pirogue remplie d'ananas, de bananes, de mangues. Alors il fait le tour des bateaux et il accoste là avec un sourire. Et puis, c'est pas des croissants ni des baguettes qu'il apporte, mais non, c'est des fruits de l'île.
Et cette vie est toujours la même aujourd'hui.
Bon, oui, bien sûr. Alors, Tahiti est quand même la ville là-bas.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de monde. Mais dès qu'on va à Moréa, en face, à 10 000, mm-hmm. on est déjà dans un autre monde. Même d'ailleurs, quand on va à la presqu'île de Tahiti, tout à l'est de l'île, on rencontre des paysages qui restent très peu urbanisés. Il y a très peu de maisons et les lagons sont toujours très beaux.
Ouais. C'est ce que vous appelez Tahiti Nui ?
Oui, alors Tahiti Nui, c'est la... Quand on regarde la carte, on voit bien que Tahiti a été formé par 2 volcans il y a à peu près 1 million d'années. Tahiti Nui et puis Tahiti Iti. Alors il y a une petite... on parle de la presqu'île, voilà, qui est Tahiti Iti.
C'est Tahiti Iti, très bien. En tout cas, vous décrivez ça magiquement, non seulement à travers vos mots, mais aussi dans cet ouvrage. Alors encore un petit mot sur Tahiti quand même. Vous habitez où ?
Alors on habite sur la côte ouest, qui est sous le vent. Oui. Puisque les alizés viennent surtout de secteur est. Donc la côte ouest est très recherchée parce qu'on est à l'abri du vent. Et on a surtout la belle île de Moréa qui est juste en face, dont un sommet dépasse les 1000 mètres. Alors je connais bien La Rochelle aussi avec l'île de Léron qu'on voit à l'horizon quand il fait beau.
Exact.
Mais enfin, quand il fait beau seulement, c'est un petit trait sur l'horizon. Ça n'a rien à voir avec Moréa.
Oui.
Moréa découpe des sommets acérés. Je me dis souvent, un enfant qui dessinerait ces sommets, on lui dirait, tu exagères, ces pentes sont beaucoup trop raides, sont beaucoup trop dures, mais en fait, elles sont comme ça. Oui. Je pense que c'est aussi une question d'âge. Moréa et Tahiti sont très jeunes, oui. Et donc les îles sont encore, ont gardé une pente abrupte qui se découpe sur le paysage. Alors qu'avec les nuages, il y a souvent des nuages dans les hauteurs, parce que la machine océanique fait venir les alizés, chargés d'humidité, ils montent dans les hauteurs, ça se condense, il y a toujours un petit chapeau là sur les îles, et c'est la présence de ces nuages qui varient avec leur position, et comme on voit Moréa, quand on est à, nous, on habite à Punaouya, on voit Moréa devant le soleil est toujours derrière. Alors vous imaginez une île comme Moréa, vue du Tahiti, avec des sommets acérés, avec toujours des nuages qui bougent et le soleil qui se couche derrière, c'est jamais le même coucher de soleil, mais il est toujours fantastique.
Et le paradis existe, vous l'avez rencontré. En tout cas, est-ce que les femmes ont toujours cette relation avec l'eau? Elles sont très proches de la mer. La mer, elle, vraiment, fait partie de la vie.
Oui, bien sûr. Il y a une raison fondamentale, c'est qu'en particulier pour les îles de la Société, mais c'est vrai aussi au Tuamotu, toutes les habitations sont au bord de l'eau. L'intérieur des îles est généralement un peu difficile à cause d'une végétation vraiment tentaculaire qui est là. On est sous le contrôle de la végétation et pas comme en France où on contrôle la végétation. Là-bas, c'est l'inverse. Alors tout le monde, y compris les Polynésiens, sont sur le bord de l'eau, toujours. Bien donc sûr. Ils ont là leur terrain, leur petite culture, et puis il y a toujours quelque part une pirogue ou un petit bateau à moteur, et beaucoup de Polynésiens le font. Ils prennent leur bateau, ils prennent la passe, ils sont dans le Pacifique, ils mènent quelques lignes, et puis dans la journée, ils ramènent une petite dizaine de bonites ou de thons, oui. Et on les voit, ils les vendent le long de la route ou ils les emmènent au marché. Mais cette relation à la mer est extrêmement courante, oui. Avec les vahas, par exemple, les fameuses pirogues à balancier, on en voit partout. Le sport national là-bas, c'est le vaha ou le surf. Hein.
C'est au mois d'août, je crois.
Ou les bateaux. Les bateaux. Mais les Polynésiens ont quand même parfois, alors on va en reparler,
oui.
Ils ont un peu oublié parfois leur origine quand même, parce qu'ils sont très près de la mer. Mais en même temps, ils aiment bien les bateaux à moteur, avec beaucoup de moteurs pour aller pêcher, les thons, les espadons. Et les voiliers, il y en a, mais c'est plutôt des popas, c'est-à-dire des gens dont la peau est grillée, c'est des popas. Donc des occidentaux ou autres qui ont des voiliers.
Et ils aiment le jet ski.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais ils aiment bien le moteur pour aller pêcher.
Ouais. Ouais. Alors, vous connaissez superbement cette île. Encore un tout petit mot, vous y êtes depuis combien de temps?
Ça fait 11 ans maintenant.
11 ans. Hein, donc, quand on s'intègre, quand on rentre dans ce pays, on n'a plus envie de le quitter apparemment. C'est ce que vous avez fait. Alors, et puis, ça vous a inspiré. Alors, c'est extraordinaire. Hein, celui-là, cet ouvrage sous les yeux, Le mystère du temps polynésien, qui est le premier tome de trois livres, puisque ça va être une trilogie qui, comme je l'ai précisé, paraît aux éditions Buchet-Chastel.
Exactement, oui.
Et qui raconte, évidemment, Tahiti sous un angle extraordinaire. Il y a le Tahiti...
La Polynésie.
La Polynésie.
Plus la Polynésie,
pardon, la Polynésie
que Tahiti.
La Polynésie, La Polynésie de l'époque, de sa découverte, la Polynésie d'aujourd'hui, et puis cette espèce de Polynésie...
Et puis une vision totalement... une vision de la Polynésie dans 3000 ans, quand même. Hein.
Comment vous avez fait pour imaginer tout ça, Jean-Pierre?
Oh, il y a une réponse extrêmement simple. Quand nous avons un bateau à voile, le Toamarama, je sais que les toutes premières fois où nous avons découvert l'île de Taha, de Raiatea, les îles sous le vent, avec ce bateau à voile, quand on passe brutalement du Pacifique, qui est toujours un peu violent, quand même, avec des houles croisées, parfois une houle de nord contre une houle de sud, hein, quand même, il faut le faire, on trouve un lagon qui est toujours paradisiaque, mais les passes sont pas évidentes à trouver. Quand on a des machines comme les nôtres, avec GPS, sondeurs, etc., c'est relativement facile. Mais tout de suite, la question s'est posée. Et les anciens Polynésiens, comment ont-ils fait? Évidemment, ils n'avaient pas de technologie, ils avaient d'autres savoirs, peut-être, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bien eu des premiers. Donc, je les ai mis en condition. Donc, j'ai imaginé ça. Et alors, pour faire la liaison avec le futur, c'est simple. Nous savons, nous, maintenant, à notre époque, que les Polynésiens ont conquis le Pacifique. Ça a été les plus grands navigateurs, parce que le Pacifique est quand même gigantesque. Ils les ont conquis avec des catamarans, en allant contre le vent, en général, et en découvrant toutes ces îles. Et donc, ils se sont trouvés dans une situation d'infini. Le Pacifique, pour eux, il est déjà très grand pour nous, mais pour eux, il n'avait pas de limite. Alors, pas de limite sur des vaisseaux, c'est assez facile de penser à l'espace. Et de transposer cette idée Un jour, et c'est comme ça que l'idée de Polynésie est arrivée, un jour, dans 3000 ans, les terriens ont fini par oublier ce que c'était que la Terre, parce que peut-être qu'ils l'ont détruite,
oui.
ou vraiment abîmée, ils en sont partis, avec des vaisseaux, avec beaucoup de vaisseaux, ils ne savent pas très bien où ils vont arriver, mais ils vont vers quelque part. Enfin, c'est l'objet du thème. Ils vont vers quelque part. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Le personnage principal du thème, des mystères du temps, ne va pas découvrir tout à fait une île, mais c'est symbolique. Il va découvrir une idée qui est liée à l'île, à la quête de l'île. Et de cette idée va naître un bouleversement pour l'humanité du 51e siècle.
Oui.
Donc, imaginez quand même que ces navigateurs polynésiens d'il y a 2000 ans, eux, quand ils ont découvert toutes ces îles, ça a dû être un bouleversement. Quand ils sont arrivés sur Raiatea, l'île sacrée, qu'ils appelaient Hawaï, c'est-à-dire l'île, toutes les îles auxquelles ils arrivaient, c'était Hawaï. C'est l'île à laquelle on arrive. Bon. Mais quand ils sont arrivés là, et qu'ils ont fondé la Polynésie telle qu'on la connaît maintenant, ça a dû être quand même quelque chose d'extraordinaire. Ils venaient d'Asie du Sud-Est depuis des siècles, ils étaient sur des catamarans, ils ont fondé la Polynésie.
Oui.
Eh bien, les hommes du futur, un jour, je les ai mis dans ces conditions d'une affinité de l'espace, c'est plus le Pacifique, c'est l'espace, c'est plus des pirogues, c'est des vaisseaux stellaires. Et que vont-ils fonder? Ben ça, il faudrait lire les livres.
Bien sûr. C'est assez émouvant d'ailleurs, à un moment, quand vous expliquez justement qu'ils redécouvrent le papier, un livre. Alors on ne sait plus.
C'est parce qu'il y a une emprise technologique.
C'est ça.
Il est bien évident que c'est assez facile, compte tenu de ce qui se passe à notre époque. Enfin, assez facile. On peut imaginer que dans 3000 ans, la technologie est partout. Et c'est une véritable pieuvre. Et les livres n'existent pratiquement plus. C'est des objets très rares.
Et ce qui est effrayant aussi, c'est le passage de l'info et du savoir, de mémoire d'esprit à esprit. C'est ce que vous expliquez. J'ai du mal. C'est assez impressionnant de s'imprégner d'une information et de la passer.
Ah ben, ils en sont venus. Les hommes du futur, qui d'ailleurs ne s'appellent plus des hommes, mais qui s'appellent des IH, c'est-à-dire des intelligences humaines, parce qu'il y a plein d'intelligences artificielles, il y en a beaucoup plus, il y a 150 milliards d'IH, mais 10 000 milliards d'intelligences artificielles, donc elles appellent des IH. Ces IH deviennent pratiquement les nœuds d'un réseau, puisque chacun d'entre eux porte un petit animal qu'on appelle un biocom, qui est à la fois une machine informatique, mais aussi un animal biologique, qui s'enroule naturellement autour du poignet gauche de l'IH, et qui la met constamment, c'est Internet à la puissance 10, parce qu'ils sont totalement connectés tout le temps, par les images, les messages, etc. Donc l'informatique est partout, l'argent ne s'appuie plus l'argent, mais c'est l'info. Il y a des systèmes visuels comme les THM, c'est-à-dire les transmetteurs hypermédia, mais il y a aussi les méga ou même les giga THM, qui sont des systèmes qui reproduisent dans l'espace réel une vision complètement virtuelle dans laquelle ils pénètrent. Et ils ne savent même plus très bien où ils en sont, puisqu'ils sont complètement de l'information quand ils passent entre les vaisseaux. C'est de l'information qui passe dans les consciences des agents. Ils passent entre les vaisseaux de la conscience. Ils sont complètement perdus dans le numérique, dans l'emprise technologique. Mais vous savez qu'il y a un parallèle étrange qu'on peut faire. Parce que dans la saga Polynésia, dans les trois livres, les IH ne transportent entre les vaisseaux que de la conscience. Et ils ont besoin, comme ils transportent de la conscience, ça ne peut marcher qu'avec de la matière vivante, pensante, c'est-à-dire des hommes nus. Ils ne passent pas d'objets. Ils ne passent pas du tout d'objets. Entre les vaisseaux, ils passent leur pensée et cette pensée ne peut exister que par voie orale. C'est-à-dire qu'il a fallu un moment que l'on parle ou que l'on lise. Et alors, pourquoi je dis ça? Mais parce que les anciens Polynésiens, même encore aujourd'hui, ont une tradition orale très forte.
Oui. Donc,
et il ne faut pas oublier que la Polynésie n'a été découverte par les Européens qu'il y a à peu près 200 ans. Tahiti n'est français que depuis 1844. Avant, il n'y avait pas d'écrit. Les Polynésiens parlaient, chantaient. Et la chanson, comme la parole, était un lien fort de leur culture. Eh bien, les humains sur leur vaisseau du 51e siècle ne peuvent communiquer que s'ils parlent, qu'ils enregistrent ou qu'ils lisent et qu'ils transportent à ce moment-là ce qu'ils ont dans leur mémoire entre les vaisseaux.
Voilà.
C'est comme ça que l'économie du 51e siècle fonctionne.
Alors, vous savez, moi j'étais contente quand je revenais sur le plancher des vaches, c'était de dire, plutôt sur les bateaux et sur la terre de Tahiti, en fait de la Polynésie, et à suivre donc vos personnages sur leur va. c'était presque rassurant. On se retrouve dans quelques instants, Jean-Pierre Bonnefoy. Je choisis la lumière du levant, qu'un vent favorable tire ma pirogue vers lui, qu'elle court sur le grand Moana, qu'un vent favorable tire ma pirogue vers lui, qu'elle fonde les flots profonds, qu'un vent favorable tire ma pirogue vers lui, qu'elle emporte mon peuple vers l'île de la félicité, là où naîtront les enfants de nos enfants, qu'un vent favorable tire ma pirogue vers lui, je choisis la lumière du levant, qu'un vent favorable tire ma pirogue vers lui. C'est très beau, hein. Il y a aussi des poèmes, vous nous resituez là.
Oui, c'est ce que vous avez lu et de moi.
Hein. Oui, je sais, justement. Alors
mais
là.
Je m'inspire aussi de légendes, ouais. Et j'aime bien broder sur ce qui existe, ou ce qu'on croit qui a existé, ouais. Et puis surfer sur l'imaginaire et basculer dans le rêve, l'utopie.
Et il y a beaucoup d'amour, hein, dans votre livre.
Oui, certainement.
Beaucoup.
Les deux autres sont... Alors, le 1 est très impliqué par la quête de l'île. Le 2 et le 3, les Polynésiens poursuivent leur quête sur l'océan. Oui. Parce que vous oubliez le triangle polynésien, avec l'île de Pâques.
Absolument. Ah,
Hawaï,
oui, c'est ça.
Donc... Nouvelle-Zélande. Donc, cette tribu, pourrait-on dire, qui est unique dans le 1, éclate en 3. Et puis ils vont parcourir les bras de la pieuvre, qui sont en fait les directions pour les Polynésiens. Donc Moana, qui est le petit-fils de Taharoa, qui est le héros principal du passé dans le tome 1, donc son petit-fils va reprendre le flambeau, et il va poursuivre la quête sur les bras de la pieuvre.
Oui.
Mais il y a aussi une petite fille, Nea, qui est obsédée par les reflets de l'eau, parce qu'elle trouve dans les vagues, et, ou dans le courant des rivières, des images fugitives, qui vont lui permettre de réveiller une puissance considérable liée aux formes et aux signes. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a oublié. Oui. On est trop impliqué par l'informatique. Et encore, le personnage principal qui est toujours là du 50e siècle, avec les liens par le rêve qui se passent entre les trois temps, le passé, présent et futur, par l'intermédiaire d'Alpha, qui elle-même d'ailleurs se met sur son bateau à dessiner des signes qui ressemblent aux signes mystérieux de l'île de Pâques. Tous ces gens-là, dans les deux et le trois, vont être très impliqués, pas seulement par la quête de l'île, mais par la signification des signes et des formes.
Ouais.
Les tatouages, les signes mystérieux de l'île de Pâques, des images qu'on a oubliées nous, mais qu'on peut voir dans l'eau, etc.
Oui. En tout cas, trois ouvrages qu'il faut prendre le temps de lire, car ils sont fort importants, il ne faut pas se perdre un peu. Et puis, de temps en temps, on est un petit peu angoissé, puis on se raccroche, comme je vous le disais, à la terre, à la mer, à ce couple, à ces bateaux,
aux vaisseaux qui sont toujours par là, à l'océan, qui est toujours présent.
Et comme vous l'avez dit, il y a les vaisseaux galactiques et il y a les vaisseaux, évidemment.
Bien sûr. Oui.
Alors,
le 1 est paru au mois d'avril, le 2 sort le 10 juin, et le 3, donc le 2, l'invasion des formes, et le 3, le pouvoir des signes, en octobre.
Oui. Alors donc là, vous couvrez toute cette zone pacifique, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ce triangle, en commençant par la Polynésie.
Et pas exactement, parce que je me réserve un peu pour l'avenir. Ah. Donc, oui, parce que ce sont des mondes. Dans le 2 et le 3, les Polynésiens partent des Gambiers, vont aux Marquises, ils vont vers l'île de Pâques, ils commencent à bouger.
Ouais.
À partir de le moyeu de la pieuvre, c'est l'île sacrée de la Polynésie, c'est l'ancienne Hawaï, c'est Raiatea, c'est le centre. Après, de là, partout les bras de la pieuvre,
ouais.
Dont Teira ou Tera, qui est le soleil levant, vers l'île de Pâques.
Vous prenez le temps d'écrire, vous écrivez tout le temps, Jean-Pierre Bonnefoy. Je sais que votre épouse qui vous accompagne et qui est la première personne qui découvre ce que vous
écrivez,
c'est votre première lecture.
Qui est un peu dans le livre d'ailleurs.
Qui est un peu dans les livres.
Oui, sous le nom d'Alpha, mais Alpha tourne toujours, tout ce que fait Alpha tourne à une douce schizophrénie, alors c'est plus elle là.
D'accord. En tout cas, il faut le lire absolument pour mieux comprendre et découvrir.
C'est un bon moyen de découvrir la Polynésie.
Absolument.
Hein, parce que je sors beaucoup sur les légendes polynésiennes.
Ouais, oui.
Donc on a une vision tout à fait riche et imaginaire. L'utopie insulaire, qui existe toujours.
Vous faites une description remarquable de ces femmes, de ces danses et de ces hommes qui vivent dans ces îles. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle
merci
donc
vous,
le titre
Ariel,
du premier qui s'appelle donc dans cette grande saga du Pacifique, Polynésia, les mystères du temps, que vous signez Jean-Pierre Bonnefoy, qui paraît aux éditions chez Sastel. Et les deux autres, eh bien, ça sera pour très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bonnefoy. Bon retour dans vos îles de rêve. Et puis, ben, bravo pour ce très beau livre. À demain. Ça reste à voir.
Pour nous écrire, une adresse mag.mer@